France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Êtes-vous retourné au cinéma ou faites-vous partie de ceux qui hésitent encore et qui gonflent ce chiffre de 73,8% de baisse de fréquentation des cinémas? Certaines salles ont littéralement fermé, même pendant la guerre, les salles de cinéma n'avaient pas fermé. Est-ce que ça vous aide de penser que désormais nous serons tous masqués pendant le film à l'intérieur de la salle? Est-ce qu'au contraire, ça vous renvoie illico vers Netflix et consorts? Et si je vous pose la question, c'est parce que nous sommes au lendemain de la sortie de Tenet, le film de Christopher Nolan, que l'on présente comme le blockbuster qui sauvera les salles parce que forcément il attirera du monde. Nous sommes à la veille du festival du film d'Angoulême qui doit être celui de la rentrée cinéma, film francophone bien sûr. Est-ce que ce genre de coup de boost des blockbusters à la Tenet dont le cinéma a besoin, est-ce que c'est ça dont le cinéma a besoin, est-ce que ça suffira, est-ce que ça incitera les grosses productions à la Disney par exemple à renoncer au décalage des sorties prévues pour 2021-2022 voire au-delà? Qu'est-ce qui empêche en ce moment les salles de repartir? Est-ce que c'est peu de matière ou peu de films? Ou est-ce que c'est le Covid? Est-ce que plus de films feraient oublier le virus? Ou le virus freine-t-il la sortie des films? C'est un peu le diable qui se mord la queue. Nous sortons d'un été meurtrier pour le cinéma. Quand retrouverons-nous le sens de la fête? Ce qui me permet de saluer au passage l'un de nos invités. Laissez-moi ajouter que le Covid est une ordure. Qu'est-ce que vous en pensez? Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Allez Mathieu, c'est vous d'abord le premier de ce téléphone sonne. Vous êtes dans le Morbihan et je vous salue.
Oui, c'est ça, bonsoir.
Allez-y.
En fait, moi je suis président d'une salle associative dans le Morbihan. Donc c'est un mono-écran et on a une trentaine de bénévoles et deux salariés.
Et en fait,
c'est compliqué, c'est très très compliqué. On navigue à vue, pour être très clair. On apprend en fait, comme beaucoup de gens en fait, par la presse en fait, ce qui va nous arriver. Donc c'est très déstabilisant et en fait on n'arrive pas trop à s'organiser. On sait même plus trop comment faire ou comment programmer. Et puis le port du masque, on va se prendre en pleine face, on va le subir et on sait pas trop comment s'organiser là-dessus. Quoi.
Vous allez le subir ou est-ce que ça peut faire revenir des gens et les rassurer à votre avis? Qu'est-ce qu'on vous a dit autour de vous? Est-ce que dans une association comme la vôtre, on vous dit moi pour l'instant je suis pas très rassuré que le masque ça irait mieux, ou est-ce qu'on vous dit l'inverse en fait?
Il y a les deux sons de cloche, mais il y a beaucoup de gens, surtout des clients fidèles, qui nous disent clairement qu'ils attendent la fin de la crise pour revenir.
Et la fin de la crise, j'allais dire, Dieu seul le sait, pardon. Est-ce que ça veut dire que vous êtes menacé, Mathieu? Vous diriez ça ou pas? Que ça peut être la clé sous la porte?
Le modèle qu'on a, nous, vu qu'on est, on est quand même une grande partie associative et bénévole, en fait, ça nous fera tenir. Mais je pense aux copains qui en vivent, ce qui n'est pas mon cas, ça peut être très compliqué pour eux. Ouais.
La petite échelle comme la vôtre qui souffre autant que la grande échelle au fond. Merci beaucoup pour ce témoignage, Mathieu, pour parler ensemble jusqu'à 20h ce soir. Éric Toledano est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes réalisateur, bien sûr. Marc-Olivier Sebag est avec nous, délégué général de la Fédération Nationale des Cinémas Français. Je vous salue, Eva Béton.
C'est gentil, bonjour.
Oui, c'est le minimum. Je vous le dis au passage, on aura Dominique Besnier dans un instant au téléphone, puisque demain s'ouvrira le Festival du film francophone d'Angoulême, dont il est le délégué général. Je vais commencer avec vous, Éric Toledano. Qu'est-ce qu'on dit à Mathieu, en effet, qui, au fond, alors même lui, à sa petite échelle, ne sait pas sur quel pied danser? Est-ce que c'est ça qui pose problème aujourd'hui dans le monde du cinéma, au fond? C'est qu'on ne sait pas, en fait, sur quel pied danser.
Déjà, on lui dit bon courage parce que c'est vrai que moi, on a tous une très très grosse pensée pour tous les exploitants en France qui se battent et c'est peut-être la plus grande peur, c'est qu'il y en ait qui se relèvent pas de la crise et qui arrivent pas à continuer, et surtout quand c'est justement dans des endroits plus reculés qui sont pas des grandes villes et où on maintient justement un niveau d'exploitation et culturel et de diversité. Donc je lui dis bon courage et j'ai envie de rester optimiste. J'ai envie de penser que tout ça n'est qu'un mauvais moment à passer et qu'il va falloir se plier, et que les vrais amoureux du cinéma doivent rester fidèles à ce rendez-vous unique et incroyable qui est de partager justement avec des gens qu'on ne connaît pas. Justement, dans un moment où on parle de distanciation sociale, on a un problème avec ce concept. Hein. C'est un concept qui rentre difficilement dans nos cerveaux. Maintenant, justement, voilà un endroit où si on pouvait maintenir ce rendez-vous, ce rituel, cette possibilité de partager les films et de ne pas simplement je dirais pas engrosser parce que c'est un peu méprisant, mais dégénérer les profits des plateformes pour dire que c'est la nouvelle façon de consommer la fiction. Moi, j'ai envie de dire, on va serrer les coudes et on va y arriver. J'espère que je suis pas naïf et que c'est possible.
Marc-Olivier Sebag, je vous pose la même question qu'à Mathieu au fond, parce que qu'importe effectivement l'échelle, et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que le port du masque obligatoire désormais et la distanciation ajoutée à cela d'ailleurs dans les endroits les plus rouges, est-ce que ça vous aide au fond d'avoir au moins quelque chose de fixé, ou est-ce que vous avez peur que certains se disent ah non, le max, moi justement, comme disait Éric Toledano, je retourne sur Netflix.
Alors, il faut d'abord voir que depuis le 22 juin où les salles ont ouvert, le masque était obligatoire dans la salle de cinéma, partout, avant les commerces, avant tous les centres commerciaux, etc. Il fallait mettre son masque quand on rentrait dans un cinéma. Et puis, une fois si, on pouvait l'enlever dans la salle. Aujourd'hui, le masque se généralise dans la société, on l'a dans les rues, on l'a dans tout Paris, c'est une nécessité sanitaire. Les exploitants de salles ont extrêmement bien appliqué les règles du système actuel. Ils appliqueront extrêmement bien les règles du système de demain. Et l'essentiel, c'est que les spectateurs soient rassurés, sachent où ils doivent aller et qu'est-ce qui va se passer dans un cinéma. Après, le temps d'un film, vous avez 2 heures. C'est comme le temps d'un train. Vous pouvez avoir du plaisir, vous pouvez rire, vous pouvez être à côté des gens que vous aimez et vous pouvez être ému ou être joyeux ou être triste. Qu'est-ce qu'on a vu cet été ? Moi, j'entends la détresse de l'exploitant qui s'est exprimé et on l'entend beaucoup à la Fédération des cinémas. Il y a moins de spectateurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de films. Cet été, il y a eu 30% de fréquentation par rapport à d'habitude. Et petit à petit, les films sont ressortis. Petit à petit, aujourd'hui, beaucoup de films sont à l'affiche. Vous avez des films très grand public, vous avez des films comme Tenet, vous avez des films, des comédies comme Effacer l'historique. Vous avez un choix beaucoup plus grand que vous n'aviez le 22 juin lorsque les cinémas ont ouvert. Et les films qui ont fait le pari de la salle, les films qui ont dit on va retrouver le public en salle, eh bien, ils ont retrouvé ce public. Film par film, les gens étaient là. Vous avez plus d'un million de spectateurs qui sont allés au cinéma tout par semaine.
Mais ça veut dire qu'il faut le film porteur qui sert de locomotive pour les autres ou pas ? Alors pas seulement Tenet, alors on va en parler de ces blockbusters.
Mais ça reste toujours la même logique, c'est pas un marché normal, le cinéma c'est pas un marché de l'offre et de la demande, il n'y a pas un nombre de gens qui va au cinéma toutes les semaines, c'est vraiment l'offre qui fait la fréquentation. Donc moi je suis optimiste parce que à un moment, à force de retenir les sorties, de les retarder, à un moment il y a des gens qui prennent le risque de sortir et j'espère qu'ils vont être récompensés.
Je vous ai vu Eva, juste une seconde, pardon. Donnez-moi, puisque vous dites ça, Éric Toledano, est-ce que vous auriez, si vous aviez un film là, est-ce que vous l'auriez sorti au mois de juin ?
Ben, écoutez, c'est une vraie question et je regardais un peu le marché. Je vois effectivement que Nolan, on dit un peu dans la presse qu'il a la reconnaissance du ventre, qu'il est né grâce aux salles et qu'au lieu d'aller justement fricoter ailleurs, il a voulu sortir maintenant et d'ailleurs avant les États-Unis. Exactement. Moi, je pense que c'est le moment de montrer sa solidarité. C'est un moment d'épreuve collective, donc. Moi, j'aurais voulu sortir en salle et je me serais démené pour convaincre les gens de revenir en salle et de partager ça. On essaye de faire des films pour la salle. Après, que cette crise ait peut-être consolidé ou concrétisé des lames de fond qui étaient déjà là, on va peut-être en parler.
Il y a
peut-être
accélérer des même.
Voilà, accélérer de fond, des processus où effectivement, il y a des films qui sont peut-être plus faits pour aller ailleurs aujourd'hui et qui a un tri naturel. Mais il y a des films de salle et il faut les maintenir.
Juste un point supplémentaire, les salles de cinéma, elles sont extrêmement reconnaissantes à tous les distributeurs et tous les réalisateurs qui ont sorti leurs films, et ils ont eu raison, puisque ces films ont réuni un grand nombre de spectateurs, plus de 700 000 entrées pour Tout simplement Noir.
Enfin, vous 600 000 avez... pour Toto, par exemple, c'est ce genre de film qui a marché.
250 000 pour L'ombre de Staline. Ouais. Donc vous avez des films très différents qui ont réuni beaucoup de spectateurs.
C'est pas le même marché que d'habitude, parce que le film n'est pas déprogrammé. Je vois que L'Ozon est encore en salle. Ouais. Peut-être dans un marché normal, il ne le serait pas. Donc on a plus de temps pour amener plus de gens au cinéma. Donc finalement, le risque peut être récompensé.
Eva Bétan, et puis on parlera à Dominique Besnéard juste après.
Bien sûr. Je voulais parler de la structure du public, qui est une chose très importante. Je regardais le bilan du CNC de 2019. En 2019, plus de 60% du public des films français avaient plus de 50 ans. Dans la fréquentation des salles, les inactifs, quand on fait par CSP, c'est 49,8% de la population. Est-ce que serait, comme il y a beaucoup de gens qui sont dans une tranche à risque, est-ce qu'il n'aurait pas fallu anticiper et au lieu de dire le masque dans les couloirs du cinéma où on ne fait que passer, dire tout de suite c'est pas le bout du monde de mettre les masques dans les salles.
Mais Eva, dans cette vie qu'on vit aujourd'hui, depuis le début mars, eh bien, on peut toujours dire, on aurait pu anticiper, non, on aurait dû faire,
c'est
etc.
C'est une vraie question, vous savez personne qu'il est un peu, qu'une partie du public est âgée.
On peut pas, oui, mais eux, ils sont là, ils sont allés voir des films, ils étaient présents dans les salles de cinéma. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant, il faut prendre en compte les difficultés des uns, il faut prendre en compte les difficultés des autres. Les salles de cinéma ont d'énormes difficultés. On attend deux choses dans les salles de cinéma, à la fois la reprise du marché, mais aussi des aides publiques très importantes. Et c'est de ça dont on va pouvoir parler.
Évidemment. Bonsoir Dominique Besnéa.
Bonsoir.
Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour nous ce soir au téléphone.
Surtout que au même moment, on réouvre un cinéma. Donc j'entends tout ce dialogue un peu compliqué sur la non-fréquentation. Et là, en même temps, on ouvre un nouveau cinéma Angoulême, Les Prons. Donc ça veut dire que moi, je suis un peu d'accord avec Olé Dano et le monsieur. C'est qu'il faut être optimiste et que le cinéma va redémarrer parce que quand même, on doit subir la distanciation sanitaire. Et là, il y a déjà 30 000 personnes qui ont demandé à voir des films à Angoulême, donc dans une période assez compliquée. Donc, on n'a pas du tout senti la baisse de demande. Moi, je pense que c'est un signe. Et c'est aussi un signe parce que moi, je suis aussi d'accord avec Olé Dano. C'est aussi la programmation cet été, à part le film d'Ozon et Les Parfums, c'était quand même assez... Les propositions étaient quand même assez moyennes. Et je pense que là, maintenant, les films qu'on a attendus ou les distributeurs ont préféré attendre, maintenant vont être sur le marché. Vous allez voir que ça va redémarrer.
Vous, Dominique Messner, vous êtes le premier festival, au fond, depuis la rentrée, depuis Cannes. Donc la rentrée cinéma, c'est vous. Ça veut dire qu'il y a effectivement beaucoup de films à Angoulême. On sent qu'il y a une envie de montrer des films. Il y a une très grosse programmation.
Une très grosse demande.
Exactement.
On n'a pas senti une baisse de demande, de réservation. Donc on s'est aligné à le fait que les gens ne peuvent plus faire les files d'attente pour pas avoir de problème. Donc les gens ont réservé, donc on voit très bien. Et là, on a 30 000 personnes.
Mais est-ce que vous avez le sentiment justement que vous êtes cette vitrine-là? Il faut montrer Angoulême en ce moment parce que c'est ça qui renverra les gens ensuite dans les salles. Est-ce que vous avez le sentiment aussi qu'il faut que vous, cette année, que vous remplissiez ce rôle-là en fait?
Ah ben justement, on nous l'a permis de le remplir alors qu'il y a il y a même encore 15 jours, on a dit qu'il y a eu un nouveau sursaut de cas. On s'est dit, non, ça, on va pas arrêter. Et je trouve que, maintenant, il faut pas non plus avoir peur. Il faut, franchement, les choses sont faites sérieusement dans les cinémas. Je veux dire, on sent très bien que les gens ne rentrent pas comme ça. On nettoie entre chaque séance. Franchement, c'est très très bien protégé. Et moi, personne ne m'a dit je vais pas venir au cinéma parce que j'ai peur de la Covid. Hein. Franchement, j'ai pas entendu ça.
Eh ben tant mieux.
Moi, je pense que c'est la programmation qui fait que les gens vont revenir. Et c'est vrai que cet été, c'était pas très brillant quand même. Il n'y avait d'abord pas les films américains, bien sûr, mais les propositions françaises étaient, à part trop 2-3 films, très moyennes.
Dominique Messner, après ces premiers, je vous laisse, vous allez rencontrer demain Jean Castex et Roselyne Bachelot qui vont à l'ouverture du festival. Qu'est-ce que vous leur demandez? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous allez leur souffler dans l'oreille?
Moi, je vais surtout leur souffler par rapport au théâtre vivant, parce que le spectacle vivant est très, très latin. Et là, parce que même si des groupes, je pense que certains, on a parlé de ce monsieur qui est un petit cinéma là dans le Morbihan, ça c'est vrai que ça doit être assez compliqué. Mais des groupes comme CGR, on sent qu'ils ont perdu beaucoup d'argent, mais je veux dire, c'est pas comme un théâtre. Un théâtre, tout d'un coup, si on joue pas, je veux dire, il n'y a pas de recette. Nous, on se dit toujours, un film, il se rembourse aussi avec plusieurs étapes. C'est le théâtre vivant, moi, qui me fait vraiment peur. Hein, parce que là, ça va être compliqué. Hein, parce que les gens, les acteurs ne jouent pas, les productions ont du mal, ils ne savent pas où ils vont. Donc, bien sûr que j'ai parlé du cinéma, mais parlons aussi du théâtre.
Merci beaucoup, Dominique Besnéa.
Alors, attendez, moi, je vais laisser un mot à Eric.
Dites-moi, Eric, puisqu'il est là.
Oui, je suis là, Dominique, bien sûr.
Parce que c'est quand même grâce à lui que, après 2-3 ans d'un festival régional, nous avons atteint un sursaut national et maintenant international. Donc franchement, Nakache et Doledano sont vraiment nos parrains pour Angoulême.
C'est voilà. Gentil, c'est un merveilleux souvenir pour nous, Dominique. Merveilleux.
Bah oui.
Festival.
Donc là, je vais aller à l'inauguration de l'éperon, voilà.
Allez-y, bonne beaucoup. Inauguration, merci beaucoup.
Merci, je t'embrasse.
Moi aussi.
Et puisqu'on est dans cet esprit-là, et avant de vous redonner la parole à tous les deux, bien sûr, je voudrais qu'on écoute Odile. Bonsoir Odile.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors, moi, je voulais dire que depuis le mois d'août, je suis allée 6 fois au cinéma, dont 3 fois cette semaine. C'est le cinéma, c'est vraiment ce qui m'avait le plus manqué pendant le confinement. D'ailleurs, j'y étais allée voir La Bonne Épouse la veille du confinement. Et dès que les salles ont réouvert, j'y suis allée. Je porte le masque depuis le début parce que je trouve ça plus sécure. Et voilà, quand je suis prise dans le film, j'oublie que j'ai un masque et je ne peux qu'encourager tout le monde à aller au cinéma.
Merci pour votre témoignage, Odile. Ça fait du bien à entendre aussi, Eric Toledano, évidemment.
Oui, et puis je pense qu'elle a dit quelque chose d'assez fondamental, c'est-à-dire qu'à un moment, si le film est bon, c'est ce que je vous disais sur l'offre, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est notre travail de faire dépasser la peur aux gens avec peut-être l'expérience et la qualité du film qu'ils peuvent avoir devant les yeux.
Et puis ce que montre cette dame, ce que montre Odile, c'est que le cinéma fait partie de sa vie. Et en France, et c'est un peu une exception en Europe, le cinéma fait partie de la vie des Français. C'est le premier loisir culturel. La France est le premier pays en Europe. Et c'est un peu... Il y a deux ou trois pays. Hein, en Asie, c'est plutôt la Corée du Sud. Mm-hmm. Les États-Unis sont où le cinéma, bien sûr, fait partie de la vie des gens. Et en France, le cinéma fait partie de la vie des gens. Mais je voulais revenir sur ce que disait Dominique Besnéard. La situation des cinémas est, disons-le, économiquement dramatique. Parce que quand vous vivez depuis le mois de mai en étant fermé, puis après avec une fréquentation très basse, vous pouvez pas durer très longtemps. À un moment, si cette situation dure, eh bien sûr, les cinémas seront en situation de défaillance. C'est pour ça qu'il faut que les spectateurs se mobilisent autour des films. Les distributeurs sont mobilisés. Ils ont mis des films dans les cinémas. On a parlé de tous ces films qui sortaient cette semaine. Il faut que les pouvoirs publics se mobilisent et on attend beaucoup de l'intervention de Jean Castex demain à Angoulême. Il faut continuer à clarifier les mesures sanitaires.
Il faut lui demander quoi à Jean Castex, hein, en fait? Vous l'avez en face de vous et même Roselyne Bachelot, vous lui dites quoi?
Alors,
d'abord, vous lui demandez combien, peut-être, non? Sur les fameux 2 milliards qui iront vers la culture.
On leur demande d'abord quoi et après combien? D'abord quoi? Qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande de soutenir l'économie de notre secteur, de soutenir les salles de cinéma tant que la fréquentation n'est pas revenue à un niveau normal. Ce soutien, il prend diverses formes. On va pas rentrer dans des détails techniques aujourd'hui. Il prend diverses formes, mais c'est plusieurs dizaines, voire plus de 100 à 150 millions d'euros qu'il faut. Il faut voir que l'ensemble de notre économie, elle est mutualisée. Les salles de cinéma, quand vous allez au cinéma, sur votre billet de cinéma, il y a une taxe qui est prise et qui finance le Centre National du Cinéma. Et ce Centre National du Cinéma, il va refinancer les futurs films, les futurs distributeurs, les exploitants, les futures salles, les travaux dans les salles. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Mais si d'un coup ça s'arrête, comme ça s'est arrêté, eh bien, on a un gros problème. On a ce problème-là. Et aujourd'hui, il faut retrouver le cercle vertueux de l'économie de ce secteur, mais aussi le cercle vertueux du plaisir d'aller au cinéma. C'est le premier geste culturel dans lequel vous faites plaisir, vous avez un bonheur, et en même temps, vous financez vos bonheurs futurs, vous financez le plaisir qui va arriver. Et c'est ça qu'on doit reconstruire.
Mais est-ce qu'on tourne encore, Eric Toledano? Parce qu'à un moment, il faut bien effectivement que la boucle soit bouclée. À un moment, il faut de la production. Ouais, est-ce qu'on risque pas de se retrouver dans un entonnoir? Est-ce qu'on a assez produit ces derniers mois pour pouvoir réalimenter la machine des salles?
C'est l'écosystème. Oui, heureusement, ça tourne. Et ça tourne beaucoup même. Donc pour l'instant, évidemment, il y a des plateaux et des tournages qui sont retardés. Mais pour l'instant, si on s'en arrêtait là, je pense quand même qu'on est passé entre les gouttes. C'est pour ça que si ça redémarrait et si les gens tiennent à leur cinéma et à ce loisir, je pense que c'est aussi le moment de montrer... c'est pas une solidarité, parce que comme je partage ce que vous dites, c'est plus une envie de partager des bons moments, etc. Mais ça reste quand même un moment complexe, et dans les moments complexes, on voit un peu sur qui on peut compter aussi.
On compte sur Hervé, nous, au téléphone sonne. Bonsoir Hervé.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Moi, je voulais saluer le travail des exploitants de salles, parce que je prends l'exemple ici dans l'Oise. On a une directrice de cinéma qui propose une programmation dans son multiplex très éclectique, et qui essaye de par tous les moyens de faire revenir, je pense, un public. On a eu nous l'occasion d'y retourner très très rapidement. On a vu des très bons films. Je pense à Madre, un film espagnol, le Défi du champion, un très bon film italien. Et puis demain, on va voir. On va voir le Ténet, dont on attendait beaucoup, voilà. Et vraiment, je trouve que les exploitants, moi, je prends vraiment l'exemple d'ici à Compiègne, voilà, se démènent et essaient vraiment de ramener le public. Donc, vraiment, ils jouent le jeu.
Et vous êtes revenu, en tout cas, Hervé.
Oui, c'est vrai, une petite réticence, mais bon, c'était, comme disait tout à l'heure un de vos interlocuteurs, c'est la même chose que de porter un masque dans un trajet en TGV de 2 heures, voilà.
Là, c'est le premier film qui coûte, en fait. Après, ça va tout seul. Merci beaucoup.
La démarche est faite, mais il faut vraiment soutenir, parce qu'effectivement, c'est un peu le motif qui revient, mais je voyais là sur le journal local aujourd'hui qu'il y a des groupes Facebook, effectivement, qui appellent aussi les gens, allez-y, il y a une programmation très diverse, vous pouvez revoir ce que vous n'avez pas vu, et puis, etc. Donc, voilà.
Merci beaucoup, Hervé, pour votre témoignage. Eva Béton, je vous voyais réagir.
On voit chaque année que ce qui va faire la différence entre une année où il y a beaucoup d'entrées ou un peu moins, ça va être quelques très gros films qui ont attiré des gens qui ne vont pas souvent au cinéma. Et est-ce que vous avez des études qui montrent que, par exemple, c'est surtout les fans de cinéma, ceux qui y allaient déjà beaucoup, qui sont retournés dès que c'était possible? La question, c'est comment on fait pour rattraper, comme on dit dans le jargon, les occasionnels, ceux qui y vont une ou deux fois par an? C'est là où va se faire la différence. Est-ce que ça, comment on fait?
Alors, vous avez raison. Dès l'ouverture des salles, ceux qui sont venus les premiers sont ces habitués, ces assidus, ces spectateurs qui aiment leur salle de cinéma et qui vont très régulièrement. Mais les autres spectateurs, les spectateurs occasionnels, ils sont là lorsque il y a un film qui les attire. Les spectateurs d'un film comme Les Blagues de Toto, c'est sûrement une part d'assidus, mais aussi beaucoup d'occasionnels de familles qui vont, parce que c'est les vacances et qui vont une fois. Eh bien, il y en a eu 600 000 qui sont allés voir ce film. C'est quand même extraordinaire.
De Gaulle a fait un score énorme, 900 000, parce que beaucoup de parents ont amené leurs enfants pour qu'ils connaissent l'histoire.
Et pour répondre à votre question précédente, et des gens qui étaient aussi amoureux d'histoire et pas forcément parmi les plus jeunes. Donc, on voit bien que le cinéma, c'est transgénérationnel et que la situation actuelle, elle ne chasse pas les uns ou les autres. Quand il y a des films pour que les gens aillent au cinéma, ils sont là. Le public est là pour ces cinémas. Il faut qu'ils soient là plus nombreux, il faut qu'ils viennent plus nombreux. Et il faut aussi que les salles soient soutenues par les pouvoirs publics. C'est l'enjeu des discussions qui ont lieu avec les pouvoirs publics.
Et puisqu'on parle effectivement du type de film, de ce que voyait notre ami Hervé qu'on a entendu tout à l'heure, mais aussi des blockbusters qui peut-être peuvent servir de locomotive, je voudrais qu'on écoute Philippe. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir.
Allez-y. Reprenez votre téléphone.
Oui, pardon, oui.
Vous aviez posé beaucoup trop loin de vous.
Voilà, c'est bon.
Allez-y, on vous écoute.
J'ai une question. En fait, j'ai écouté tout à l'heure les intervenants, et notamment Louis Gasselinard. Nous, on est partis beaucoup au cinéma au mois d'août. On est des occasionnels, plutôt sur des films américains, sur des films à grand public. Et on a vu un certain nombre de films comme Land of Murders, comme Lucky Strike, comme La Cérémonie. Alors, un peu moins la cérémonie, mais les deux autres, qui auraient très bien pu concurrencer des films américains ou des films français, comme des en tant que polar, très très bien montés. Et je trouve qu'il n'y a pas eu assez de publicité pour pousser les gens à aller voir des films qui ne seraient pas des films américains ou des films français, mais qui ont le niveau des films américains ou des films français. Et à chaque fois, en écoutant la radio, on se dit, il n'y a pas de film américain, donc on ne va pas au cinéma. Il y a peu de films français, donc on ne va pas au cinéma.
Merci.
Alors, il y a des choses qui sont, et qui ne sont pas, obligatoirement, très, très intellectuelles dans le cinéma coréen ou le cinéma allemand, mais qui pourraient très bien se retrouver au même niveau qu'un film américain dans l'intrigue, dans la qualité des acteurs, dans...
Merci beaucoup Philippe, on entend ce que vous dites, c'est les films dont vous essayez de nous parler sur Inter le plus souvent possible. Eva Béton, vous vouliez répondre, Eric Toledano.
Non, je précise à l'auditeur que c'est une période spéciale l'été, et que c'est pas une période où la promotion est possible. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il a ressenti ça, c'est que les émissions sont plutôt en vacances, et que donc c'est beaucoup plus dur de faire la promo d'un film en été. D'ailleurs, il y a déjà un risque parce qu'elle est plus faible, la fréquentation en été, et c'est pour ça aussi que les Américains arrivent avec des blockbusters très identifiés qui ont moins besoin de la promo qu'un film qui a besoin d'être soutenu comme les films français quand on vient vraiment en parler à la radio, à la télé.
Mais est-ce que, au fond, pardon, allez-y Marc-Olivier, j'ai une question pour vous juste après.
Ce qu'on entend depuis 2-3 semaines maintenant, c'est de plus en plus reparler du cinéma à nouveau sur vos antennes, dans les journaux, dans les émissions, alors que effectivement, pendant toute une période, on a parlé des problèmes économiques du cinéma et moins des films, parce que il y en avait moins, ne serait-ce que par le nombre. Là, depuis 15 jours, 3 semaines, quand on écoute la radio, quand on regarde les JT à la télé, on entend plus parler du cinéma et plus parler des films et du plaisir d'aller au cinéma, et c'est ça qui fait plaisir et c'est ça qui amène les spectateurs dans les salles.
Mais au fond, est-ce qu'on en veut aux grosses productions qui ont eu peur, les Disney et compagnie, et qui donc ont reculé encore plus 2021, 2022, 2023? Il va y avoir des Wonder Woman, des choses comme ça qui vont peut-être remettre le blockbuster devant, mais est-ce que justement on a envie de leur dire, attendez les mecs, vous avez les reins solides, donc vous pourriez sortir ces films-là et ça nous aiderait? Est-ce qu'au fond on est un peu en colère quand on est exploitants, réalisateurs?
Il y a deux cas. Il y a ceux qui sont là, comme Warner avec Tenet, puis il y a ceux qui sont partis. Ceux qui sont partis, comme Disney, on est victime de la crise sanitaire aux États-Unis. Ces films-là, ils devaient sortir en juillet. Lorsqu'on a rouvert les salles le 22 juin, il y avait une perspective avec un certain nombre de films tout l'été, Wonder Woman, Bob l'éponge, Tenet, Mulan. Donc vous voyez des films très grand public, comme il y a tous les étés en France. Et certains sont partis, et d'autres ont voulu rester pour montrer que on pouvait sortir en France, on pouvait sortir des films.
Et justement, d'ailleurs,
si on est exploitant, on leur en veut un peu quand même.
Bah oui, j'imagine.
Parce que eux, c'est des pertes quand même sèches. Voilà.
Et parce que comme vous disiez, ils ne sont pas au courant, ils s'en fichent.
Oui. Hein. Oh,
ça ne parvient pas jusqu'à eux.
Ça n'a pas été jusque-là dans la
réunion. Il y a eu un certain nombre de vidéos, etc., qui ont fait le tour du monde. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'ont besoin les spectateurs, ce qu'ont besoin les salles, ce qu'ont besoin aussi les auteurs et les distributeurs et les producteurs, c'est un environnement clarifié. Cette crise, elle a tout bouleversé. Il faut reconstruire un monde du cinéma peut-être différent, peut-être nouveau, mais en tout cas que tout le monde connaisse. Les règles sanitaires, les calendriers des films qui doivent arrêter de bouger tout le temps, et puis de la publicité, de la promotion, de l'éditorial sur les films.
Je voudrais vous poser une question. Depuis peu, très peu de temps, on voit des publicités pour des films à la télévision. J'ai vu une publicité pour Tenet.
Tout à fait.
Alors, pour l'instant, c'est à l'essai. On verra dans un an et demi ce que ça donne. Il y avait eu des protestations, des gens qui disent qu'il n'y a que les gros qui pourront se payer de la pub. Qu'est-ce que vous en pensez, l'un et l'autre?
Sur la pub, alors ça c'est un débat. D'abord, c'est pas complètement acté. Donc, si j'ai
bien compris,
c'est
pour 18
mois. En fait, ce projet qui est assez ancien, qui a plus de 2 ans du gouvernement, d'ouvrir la publicité pour le cinéma à la télévision, la France est le seul pays en Europe où il n'y a pas de publicité pour le cinéma à la télévision. Le décret est passé le 15 août. Donc, depuis le 15 août, les distributeurs peuvent acheter de la publicité à la télévision. Certains ont commencé à le faire. Ça soutient peut-être, probablement, les entrées en salle, mais c'est pour un temps limité. On a 18 mois et au bout de 15 mois, il y aura un bilan qui sera fait pour voir si certaines branches de la profession sont complètement écartées de ce système, si les prix sont trop élevés ou pas, ou si le bénéfice collectif, finalement, est meilleur. Il y a beaucoup d'avis dans la profession à ce sujet.
Il ne faut pas se mentir que la promo, elle est beaucoup, beaucoup passée ces dernières années par les réseaux et par Internet. Donc, c'est vrai que ça devenait ridicule d'être à ce point-là exposé sur Internet et pas du tout à la télévision. Moi, je trouve que c'est très bien qu'on fasse la promo du cinéma au maximum. Ça ne pose aucun problème.
Et puis, pourquoi il n'y aurait que de la pub pour les plateformes et pour Netflix à la télévision? Pourquoi le cinéma en salle, que finance par ailleurs les chaînes de télé?
Que finance la télé, mais pas toutes les chaînes. Donc, du coup, est-ce qu'une chaîne peut refuser la pub pour un film,
Il y a des règles de concurrence.
Certes, mais ça risque d'être un peu compliqué.
Il y a des publicités pour la vidéo pendant très longtemps. Et sur TF1, il n'y avait pas que des pubs pour des films TF1 vidéo. Donc, tout ça est très régulé. Mais effectivement, il y a beaucoup d'avis chez tous les corps de métier dans la profession sur ce sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que parler du cinéma en général, ça fait venir les gens au cinéma et voir tous les films. Voilà, en général.
Mettons les pieds dans le plat grâce à Vincent. Bonsoir Vincent.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Alors en fait, moi, j'entends plein de choses très intéressantes de l'ensemble des invités. Ce que je retiens simplement avant de poser la question, c'est justement les cibles locales.
Ah bah.
Et ensuite, après, ce que je posais comme question initialement, c'est, pour moi, il y a un changement de paradigme. Les choses sont accélérées avec la crise. Les plateformes de streaming ont su démontrer qu'elles, en tout cas, les distributeurs ont su adapter leur offre en diffusant directement certains de leurs films sur certaines plateformes, ce qui a fait que l'écran dans la poche remplace de plus en plus l'ensemble des autres écrans, d'ailleurs, et vient s'accaparer et se positionner de plus en plus en frontal vis-à-vis des salles de cinéma qui sont de moins en moins, finalement, visitées.
Merci.
Et je pense que c'est, enfin voilà, c'est le changement, une accélération du changement de modèle économique.
Merci beaucoup, Vincent. Effectivement, est-ce qu'on a changé de paradigme réellement? Est-ce qu'on a, en gros, est-ce que le Covid nous a fait accélérer de 10 ans vers ce qui nous attend dans une dizaine d'années?
La radio n'a pas tué le théâtre, la télé n'a pas tué le cinéma, l'offre multichaîne, les DVD. Vous savez, les expressions culturelles, elles existent tant qu'elles ont un sens, tant qu'elles ont des œuvres à diffuser.
Oui, alors après, il y a quand même quelques petites choses à réguler en termes de justice, c'est-à-dire que ce qu'on a vu quand même, c'est je crois plus de 20% pour Amazon, Netflix, Disney, etc. Et il y a toujours pas, et ça a été demandé à Emmanuel Macron pendant la visioconférence à laquelle j'ai eu la chance d'assister.
Pendant le confinement.
Voilà, c'était vraiment de faire passer cette directive SMA pour que les plateformes, elles aussi, participent à l'effort pour investir dans le cinéma et pour maintenir sa diversité.
Pour l'instant, c'est dérisoire, leur participation. Ben,
pour l'instant, c'est dérisoire en termes d'impôts, puisque c'est pas logé en France et c'est et dans
Même la petite participation qu'il y avait est dérisoire si on compare avec la participation des salles. Il y a une petite taxe qui avait été mise.
Oui, puis c'est aussi injuste par rapport aux diffuseurs français, par rapport à Canal+, qui a des obligations, par rapport aux chaînes françaises. Donc, à un moment, c'est ce que a promis Emmanuel Macron, c'est qu'au 1er janvier, par ordonnance, ça passera et que ils participeront, les plateformes participeront, auront des obligations pour maintenir ce cinéma qu'on nous envie dans le monde entier et qui a une diversité. C'est peut-être ce point-là sur lequel le paradigme ne doit pas changer, c'est qu'on a une diversité en France de tous les cinémas qui existent, que ce soit des cinémas d'auteur, de comédie, de cinéma de genre. Donc, pour le maintenir, il y a un système d'exception culturelle qui a été mis en place. Celui-là, il faut se battre pour le maintenir. Et je suis d'accord, c'est pas nos ennemis. Après, peut-être quand même que le paradigme, c'est que il y avait des problèmes en lame de fond qui étaient en train d'être réglés et que la crise sanitaire les accélère. Il y a des films qui ne sont peut-être plus faits pour la salle. Il faut pas se mentir.
Mais est-ce qu'il y a des distributeurs, des réalisateurs, enfin, est-ce qu'on s'est jeté dans les bras des plateformes, en gros, un peu vite? Est-ce que vous avez un peu ce regret, Marc-Olivier Sebag?
On va dire que certains poussés par l'urgence économique ont oublié ceux qui les avaient fait vivre, ceux qui les avaient fait naître et ceux qui demain les feront vivre. C'est leur choix, ils l'ont fait, maintenant il faut qu'ils l'assument.
Il y a le film Bronx, réalisé par Olivier Marshall, qui a été vendu à Netflix. Version César, il y avait eu Ford, Pinocchio, bah,
ces films
manquent
aux salles, bien sûr.
Pendant le Covid, et ça c'était après.
Ces films manquent aux salles, mais aujourd'hui il s'agit de reconstruire. C'est-à-dire que pour traverser cette crise, elle est si complexe pour tout le monde, en termes sanitaires, comme en termes artistiques, comme en termes économiques, qu'il faut reconstruire devant.
Mais
certains ont fait des choix, ça les concerne. Ces films, ils auraient trouvé leur place en salle, ils auraient trouvé leur public en salle.
Mais
y a eu d'autres arbitrages, on le regrette, mais...
Mais est-ce que, au fond, désormais qu'on a mis le pied dedans, par exemple, on reviendra pas en arrière sur la chronologie des médias, si? Alors que là, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Vous parlez de De Gaulle tout à l'heure, qui est déjà sur les plateformes aujourd'hui, alors que, en temps normal, si je puis dire, je suis pas sûr qu'il serait sorti aussi vite sur les plateformes. Il y a eu beaucoup d'accélération, de ce point de vue-là. Est-ce qu'on reviendra réellement en arrière? Est-ce qu'on n'a pas explosé la chronologie des médias de fait avec...
Il faudra tirer les leçons, il faudra un peu de recul si on sort, j'espère, assez vite pour voir. Qu'est-ce qu'on retient justement de cette distinction, de ce discernement entre ce qui est fait pour les plateformes, ce qui est fait pour la salle? Quelle est la spécificité de la salle? Qu'est-ce qu'un spectateur attend quand il va en salle? Moi, j'ai toujours le même... Je trouve que ça reste, pour moi, la même chose, le cinéma. C'est l'endroit où on attend plus d'émotions. Moi, je compare ça au manège quand j'étais petit. C'est-à-dire que quand je sors, je veux être enjoué, je veux dire aux autres qu'il faut y aller.
Vous voulez refaire un tour?
Je veux refaire un tour. D'ailleurs, des fois, je restais deux fois dans la séance. Donc, voilà, je veux que le cinéma garde sa spécificité qui est un peu au-dessus et qu'effectivement, on trouve pas forcément ce qu'on trouve devant un écran plus
plein. Il y a une aura qui disparaît. Prenez le film de Cuarón, qui est un très beau film de cinéma, Roma, qui a été fait directement pour les plateformes. Et il lui a manqué la salle pour lui donner donner son aura.
Exactement.
De cinéma.
Et donc, il y a un aura qui sur les plateformes. On les voit pour la première fois au cinéma.
Voilà, et après,
souvent,
exactement.
Les poursuivent le plaisir en les revoyant peut-être comme on l'a fait à la télé. Et donc, ça peut totalement coexister, pas s'opposer.
La valeur que donne la salle au film, c'est une valeur économique, mais c'est aussi une valeur artistique et une valeur symbolique du prestige. Et ça, ça mérite la fenêtre de la chronologie des médias qu'a la salle. Demain, les plateformes, si elles ont un rôle de financement du cinéma, comme Canal+, comme les chaînes, elles auront probablement un créneau comparable à celui de Canal+. Il faut qu'elles financent. Vous savez, en France, tous ceux qui profitent du cinéma, ils doivent y contribuer. Les plateformes n'y contribuent pas. Demain, elles doivent le faire.
Voici Bruno qui est à Lille sur franceinter.fr. Ça va pas vous plaire. Je suis un abonné UGC illimité. Dès que j'ai appris hier que le port du masque allait être obligatoire dans les salles de cinéma, j'ai résilié mon abonnement et je pense que je vais maintenant me tourner vers les plateformes en ligne.
Eh bien, on regrette profondément parce que s'il était abonné UGC illimité, c'est un cinéphile vraiment extrêmement fidèle et il va regretter sa vie au cinéma. Et ce que j'entends aussi dans ce qu'il dit, c'est que s'il y a des règles qui sont pas claires, peut-être dans les zones rouges, eh bien il faut les éclaircir avec les pouvoirs publics, parce que il faut que les choses soient simples et identiques sur l'ensemble du territoire et ou sur l'ensemble des modes d'accès où on est avec les autres. Ça doit être la même chose dans les transports, dans les écoles, au cinéma et dans les commerces. Il n'y a pas de raison que ça soit différent. Et si on aligne tout le monde sur les mêmes critères, les gens auront une vie normal avec le masque. Mais il ne faut pas en faire plus.
C'est peut-être pour vous cette question, Eric Toledano. Elle vient de Véronique qui nous dit « Je suis la maman d'une jeune fille de 22 ans qui est étudiante en cinéma à Rennes. Je n'étais pas trop favorable à ce type d'études au début. Aujourd'hui qu'elle arrive sur le marché du travail, je suis encore plus inquiète. Quid de tous ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, du cinéma, les techniciens, notamment les assistants réalisateurs ?»
Moi, j'ai envie de la rassurer parce qu'avec la production et l'appétit des gens pour les séries, pour la fiction, moi je crois juste que le moment qu'on vient de vivre collectivement nous a montré à quel point on avait besoin de fiction dans les moments compliqués et que ça nous aidait à vivre, justement, de pouvoir sortir de la réalité et d'assumer tout ce qui nous arrive grâce à cette fiction. D'ailleurs, les plateformes, elles ont augmenté énormément. La production augmente, les gens tournent. Donc non, attendons le retour à la normale, soyons optimistes, mais je pense que c'est un secteur qui n'est pas prêt d'être en échec si on continue à le soutenir, évidemment.
Il nous reste 20 secondes, on n'a pas le temps de prendre la question de Bernard, mais pardon Bernard, je vais la prendre dans ma voix. Votre question, elle est pour vous, Marc-Olivier Sebag. Pourquoi on ne baisse pas le prix des places pour attirer plus de personnes pendant cette période et malgré les contraintes?
Parce que le principal problème aujourd'hui, c'est l'équilibre économique des salles. Vous savez, aller au cinéma, c'est pas très cher, c'est 6,79€. C'est le loisir à l'extérieur de chez soi, le moins cher. Dès que vous faites autre chose, c'est plus élevé. Donc venez au cinéma, et puis il y a des prix pour tout le monde, et on peut aller au cinéma pour vraiment pas cher.
Je vais vous laisser avec ce message de Rémi sur franceinter.fr qui nous dit ceci: ma femme a peur de rester dans un endroit clos et climatisé, même avec un masque, donc c'est home cinéma. Je ne sais pas comment faire pour soutenir la filière, je pense acheter 2 places et ne pas y aller pour les offrir. Vive le cinéma, dit-il. Et en effet, ce sera la conclusion. Merci Rémi.
Faites-le,
Rémi, et merci à tous.
Merci.